Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h04, vous écoutez RMC, les grandes gueules du sport. Fred Veil, Sarah Pitkowski, Pascal Dupraz, ce matin en pleine forme. Elle vous réveille depuis 9h. D'ailleurs, bon réveil si vous réveillez seulement maintenant. Et vous pouvez retrouver le podcast sur l'appli RMC. Merci à toi d'ailleurs, qui nous écoute en ce moment en podcast. Dans 30 minutes, invité exceptionnel ce matin, on va reformer une équipe de légende. Boris Diaw va retrouver Fred Veil. Ça va être dans quelques instants. Boris Diaw, légende du basket, manager général des Bleus, sera en direct dans ce studio. Dans quelques instants, à 10 jours du début de l'Euro de basket. Oui. T'es content de retrouver Boris Diaw? Il jouait bien ou pas? Tu peux balancer, il n'est pas là encore.
Pour moi, c'est un des trois meilleurs joueurs de l'histoire de basket.
T'as pas de courage, c'est pas ce que tu me disais du tout.
Exactement.
Non, mais je dirais, si vous voulez que c'est un naze en face, mais par contre, en vrai, comme il n'est pas là, je peux dire la vérité, c'est un joueur incroyable.
Bon, on l'attend dans ce studio, Boris Diaw, dans quelques instants. N'hésitez pas d'ailleurs à faire le 32-16 dès maintenant si vous voulez lui poser vos questions en direct. Hein. C'est pas tous les jours qu'on parle à une légende. Moi, c'est tous les jours avec toi, Fred, mais voilà.
Si vous voulez en profiter, allez-y. Moi,
non, mais il essaie d'être honnête.
Ouais, on a bien compris.
Ah, ça y est, je les ai vexés. Bon, allez, justement, tiens, en parlant de légende, on va parler d'une autre légende tout de suite.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Uno, dos, tres, à la Madrid.
Bienvenido, Kylian Mbappé.
C'est parti pour Kylian Mbappé qui va ouvrir son pied. Ah, oh, c'est arrêté.
Non.
Incroyable, c'est arrêté par Keller.
Le football, il a changé.
Et Kylian Mbappé qui met sa tête dans ses mains.
Ça a été moche la séquence de Mbappé qui a pas fait le bon choix offensivement avant de se faire justice derrière et de faire une faute grossière d'attaquant.
Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis.
Et il y a eu une faute sur Declan Rice. Estime, monsieur le Texier, ça ne plaît pas une nouvelle fois aux tribunes du Bernabeu, mais Kylian Mbappé n'a pas semblé jouer le ballon sur cette action. Kylian Mbappé qui reste
quand au sol. Quand je le vois depuis le début de sa carrière au Real Madrid, je me dis qu'en fait, il y a un gros problème dans la remise en question. Parce que la remise en question, il ne sait pas ce que c'est.
Kylian Mbappé ! Le voilà ! Le but libérateur pour Kylian Mbappé ! Qui est lancé en profondeur sur le côté gauche.
Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres.
Ah ben Mbappé, elle toque des tacons comme Bellingham, d'évolution pour Mbappé, et Kylian. Goal del Real Madrid.
Vous êtes pas content? Triplé.
Kylian Mbappé.
Sarah, elle me regarde, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est magique. Kylian Mbappé en deux au Real Madrid. Après une saison réussie sur un plan statistique mais sans titre, Mbappé sera très attendu au sein de ce Real, guidé désormais par Xabi Alonso. Le premier match du Real cette saison, ce sera mardi prochain contre Osasuna. Et on n'oublie pas non plus que c'est une année de Coupe du Monde pour les Bleus de Mbappé. D'où cette question ce matin, les GG. Cette saison est-elle un tournant pour la carrière de Kylian Mbappé? Oui ou non, Pascal Dupraz?
Non.
Sarah Pitkowski?
Ah oui, elle doit l'être.
Fred Veil?
Oui.
Oh, Pascal, il va être tout seul encore. Le pauvre.
Quand on a des mauvaises opinions, non, François, quand on a une mauvaise opinion, non, c'est logique qu'on soit tout seul. Mais bien sûr, quand on se trompe, alors, je préfère.
Non. Mm-hmm. Avant de lancer le débat, justement, on va accueillir Edgar Grollo, notre correspondant en Espagne. Salut Edgar.
Salut François, salut les GG,
salut à
tous. Ouais, tu arbitras ce duel d'ailleurs. Enfin, ce duel, c'est pas un duel, hein, puisqu'ils sont trois, mais voilà.
Un truel.
Une truelle. Voilà. Edgar, qu'est-ce que le Real Madrid attend de sa star cette saison?
Déjà, ça doit être la saison de la confirmation sur le plan statistique. Mbappé a mis la barre très haut. Les supporters madrilènes s'attendent à plus de 30 buts en championnat, s'attendent à ce qu'il soit le Pichichi, c'est-à-dire le meilleur buteur de Liga et le soulier d'or européen comme la saison dernière. À Madrid, on espère aussi un Mbappé de plus en plus leader en tirant les pénaltys, en prenant la parole dans un vestiaire qui a connu du turnover cet été et où il doit être un cadre important. Maintenant, pour cette deuxième année au Real, le curseur va être placé encore plus haut. La presse espagnole réclame encore plus que des chiffres, pour que la saison de Mbappé au Real soit vraiment réussie, il faudra forcément cette fois un titre majeur. Il faudra forcément qu'il arrive à tirer son équipe vers le haut. Et puis, il faudra aussi que Mbappé augmente son niveau dans le jeu. Hein, Kylian Mbappé qui fait vivre un enfer à ses défenseurs, qui dribble, qui participe au jeu, qui fait honneur à son nouveau numéro 10 sur le dos. Il doit aussi relever un nouveau challenge, celui d'être le premier défenseur dans le pressing de Xabi Alonso. Les observateurs espagnols vont être très exigeants cette saison, plus exigeants que la saison dernière. Et les observateurs français aussi, puisque tu l'as dit, il y a la Coupe du Monde avec les Bleus en ligne de mire dans moins un an.
Edgar, évidemment, tu restes avec nous. Justement, je rappelle la question. Est-ce que cette saison est un tournant pour la carrière de Mbappé? Et toi, Fred, tu as dit oui. Hein.
J'ai dit oui. Je trouve que Edgar a très, très bien résumé ce qu'on attend de lui. En fait, on attend d'un Mbappé qui soit au sommet, qu'il soit le meilleur. Et c'est vrai que même si la saison dernière, je crois qu'il met 31 buts, 3 passes décisives, donc c'est quand même une saison statistique incroyable. On attend plus, parce qu'il n'y a pas que les statistiques. On attend ce leadership, cette capacité à aider son équipe à gagner un titre majeur. Un titre majeur, c'est ultra important. Et je trouve que ça manquait un petit peu cette année. Je trouvais que ça manquait un peu de ce leadership. On a envie de le voir en défense, on a envie de le voir impliqué, on a envie de le voir tirer les pénalties, on a envie de le voir vraiment être le numéro un. Parce que dans la vie de Mbappé, c'est sa vie d'être numéro un. Il veut être numéro un, il veut être une légende. Et pour être une légende, il faut faire plus encore que ce qu'il a donné là. La première année, c'est une très bonne année. Même si beaucoup l'ont critiqué, c'est une très bonne année. Maintenant, non seulement il faut confirmer, mais il faut faire encore mieux. Et en plus, ligne de mire, c'est la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le plus grand des révélateurs. Donc si tu veux être le joueur que Mbappé veut être, il doit faire une énorme Coupe du Monde. Donc forcément, c'est une année charnière pour lui.
C'est une année où il va avoir 27 ans, hein, en décembre. Sarah.
27 ans, c'est une année charnière. C'est généralement la meilleure période. En tout cas, c'est les bonnes périodes. C'est ce qu'on dit théoriquement. On doit être la meilleure version de soi-même en tant que sportif. Donc déjà par rapport à cet âge. En plus, je pense qu'avec Xabi Alonso, le jeu devrait changer, peut-être plus simple dans certaines combinaisons. Il y aura peut-être plus de courses dans la profondeur, ce que lui aime. Donc peut-être que le jeu va plus, en tout cas la tactique.
Il sera plus plaisant en tous les cas. Logiquement, il sera plus plaisant.
Alonso, de Xabi Alonso devrait convenir à Mbappé, où on devrait aussi le retrouver plus.
Après, il demande beaucoup d'efforts à ses joueurs, hein, quand même, Xabi Alonso. Hein. On l'a vu avec ses équipes précédentes. Hein.
Exactement.
Tout le monde doit attaquer, doit défendre.
Et est-ce que Mbappé aime ça déjà?
Non, il n'aime pas d'efforts.
Ben non, c'est ça.
Mais tu parlais de ces statistiques qui étaient impressionnantes, mais en fait, on n'attend pas d'un joueur de sport collectif qu'il ait des statistiques individuelles impressionnantes.
C'est important quand même ça, Sarah, oui. C'est hyper important quand même.
On est d'accord, mais si c'est associé à des titres collectifs,
bien sûr.
Parce que juste une saison du Real sans aucun titre, mais avec le soulier d'or pour Mbappé, ça fait pas une belle jambe au Real. Donc voilà, et je pense qu'il a quand même des objectifs cette année qui sont importants. Un, démarrer fort, puisque l'année dernière c'était quand même pas évident. On savait pas trop s'il avait un petit coup de moins bien, petite dépression. Cette année, on attend qu'il démarre fort tout de suite.
Il connaît le contexte, donc il a l'excuse d'arriver dans un club mythique comme le Real Madrid.
Il y a une prise d'information, donc là a priori, il est intégré. Il va falloir faire mieux en Liga, il va falloir mieux en Ligue des Champions. Lui, personnellement, je pense que si c'est Dembélé qui a le ballon d'or, je sais pas par où ça va passer.
Déjà, son orgueil en a pris un coup quand même.
Exactement.
Ça fera un motif de plus.
Et une alchimie avec Vinicius. Et il faut quand même que cette alchimie, elle prenne quand même.
Ouais.
Donc, tout ça faisant que je trouve que cette saison, elle est quand même charnière pour Mbappé.
Ouais.
Voilà.
Vas-y, Pascal.
Pardon.
Non, vas-y.
J'ai été discret. Vas-y. J'ai voulu laisser écouter l'argumentation de mes amis.
C'est pour mieux attaquer.
En fait, Mbappé, que ce soit cette saison, la saison prochaine ou les saisons d'avant, il a toujours des objectifs élevés et les saisons sont toujours des tournants parce que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et il se trouve que à pareille époque, la saison dernière, on disait, j'entendais souvent sur l'antenne d'RMC aussi, comme quoi. Ça se dit quelques conneries aussi sur l'antenne d'RMC. J'entendais souvent dire que c'était un mauvais choix que de venir au Real alors qu'il y avait Vinicius. Vous l'avez entendu aussi, ça.
Oui.
Il se trouve que Mbappé est devenu le meilleur buteur du championnat d'Espagne dans une équipe complètement déséquilibrée, avec une défense en contreplaqué et avec des joueurs qui faisaient pas d'efforts. Donc Mbappé, et ceci a coïncidé avec son départ du PSG et le fait que le PSG gagne la Ligue des Champions. Donc facile de stigmatiser, bien français en fait, que de stigmatiser les mauvais choix de Mbappé quand a décidé d'aller au Real plutôt que de rester au Paris Saint-Germain. J'en passe et des meilleurs. Mais Mbappé, il va continuer, il va confirmer tout ce que je peux espérer pour lui, mais aussi pour nous, pour le foot, pour qu'on se fasse plaisir. Eh bien, c'est qu'il tombe sur dans une équipe mieux équilibrée que le Real, qui a fait la saison dernière chou blanc. Parce que le Real n'a pas gagné un seul titre. On peut pas mettre le fait que le Real n'a pas gagné un seul titre sur les épaules
de Kylian Mbappé. Moi, je suis pas d'accord.
En partie, oui.
Un joueur de ce calibre-là doit tirer les autres vers le haut et doit aussi collaborer. C'est un leader. Il doit être un leader. Encore une fois, les statistiques, c'est bien, mais il faut amener les autres avec soi.
Je voudrais finir comme quoi, en plus de ta pugnacité, de temps en temps, t'es presque incorrect avec moi, Fred.
Jamais.
Laisse-moi terminer.
C'est seulement en antenne que je suis incorrect avec toi. Jamais en antenne.
Bien sûr. Mais ce que je voudrais dire, qu'est-ce qu'on attend de Mbappé? Qu'il défende à tout va, il défendra jamais. Qu'il résonne collectif à outrance, c'est pas son format.
Mais c'est pas le format du foot actuel, Pascal.
N'est pas le format du foot actuel. C'est
qui
pour
doit
ça que je voulais.
Qui,
je voulais en venir à cela. C'est que son coach Xavier Alonso, et ben bon courage pour le faire défendre, parce qu'il va peut-être faire les efforts une fois ou deux, mais il les fera pas. Il va falloir s'adapter.
On attend au moins le minimum défensivement.
Xavier Alonso. Ouais, mais j'écorche toujours les noms, tu le sais bien.
Pascal, tu es en train de dire entre les lignes.
Entre les lignes, exactement.
En fait, on pourra pas attendre mieux d'Mbappé parce que de toute manière, il défendra pas, même si c'est Xabi Alonso.
Si Mbappé fait simplement les efforts de replacement qu'il ne fait pas tout le temps, et si Mbappé est dans ses standards, à savoir marquer 30 buts dans une équipe du Real qui maîtrise davantage son sujet que la saison dernière, alors vous verrez qu'Mbappé va accomplir une très bonne saison. Mais j'ai presque envie de dire, en termes de standard, il a jamais failli. Il marque toujours des buts, Mbappé.
Il doit être un leader, c'est pas suffisant, Pascal.
Marquer des buts, j'imagine.
Mais justement, tout le monde le sait. Edgaro, on l'appelle maintenant.
Oui, Edgar, c'est ce que tu nous disais, évidemment, ce n'est pas suffisant pour le Real. C'est très bien de marquer des buts, mais il faut que le Real gagne des titres d'abord. C'est quand même la première chose. Et tu nous disais aussi que Xabi Alonso, en tout cas, il va falloir lui apprendre peut-être à jouer un peu différemment ou pas.
Bien sûr, et je pense que on parle de défensivement, du rôle défensif que doit avoir Kylian Mbappé. Évidemment, on va pas demander à Kylian Mbappé le même genre d'effort qu'on demande à Ousmane Dembélé ou à Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain. C'est pas ça l'idée. Par contre, comme l'a dit Pascal très justement, il faut se replacer, il faut bloquer les angles de passe à la relance, il faut faire le pressing collectif avec tout le monde pour pas laisser un trou, et pas que les efforts des autres. C'était pas le seul à pas le faire, mais oui. Il faisait souvent pas assez, mais comme Vinicius.
Mais c'est peut-être ce que lui demandait son coach la saison dernière, de ne pas
défendre. Bien sûr, il y a des demandes complètement différentes avec Xabi Alonso, mais il va falloir relever ce challenge-là. Et puis, on parle des stats et de ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. En Espagne, il n'y a pas le moindre doute sur les stats qu'aura Kylian Mbappé. Mais c'est presque un signe de respect immense que ce débat envers Kylian Mbappé, parce que on a très peu de doutes sur les stats qu'il aura. Par contre, sur ce standard-là, ce niveau de joueur-là de classe mondiale, on attend encore plus. On n'a aucun doute qu'il va mettre 25 buts en championnat ou presque, mais maintenant il va falloir aussi permettre à l'équipe d'être performante. C'est pas du tout évidemment le seul ni le principal responsable des problèmes qu'a eu le Real Madrid l'année dernière, mais par contre au bout d'un moment, forcément quand on joue au Real Madrid, si ça marche pas, il faut chercher des coupables, et Kylian Mbappé pourrait en faire partie.
Alors maintenant, moi, j'ai une remarque par rapport à son début de saison et au fait qu'il jouait un poste nouveau l'année dernière, c'est-à-dire dans l'axe. J'ai trouvé qu'il s'est amélioré la saison dernière dans le petit jeu, dans le liant. Ok, donc ça veut dire que Mbappé, on peut s'autoriser à tous les espoirs parce que c'est un joueur hors norme. Par contre, franchement, j'émets des doutes quant à sa propension à défendre et sur de manière récurrente. Voilà, c'est tout. C'est un joueur qui s'égare et qui, à un moment donné, aime pas défendre. Depuis qu'il est tout gamin, on lui demande. Et malheureusement, pour l'instant, c'est pas rentré. Mais est-ce là vraiment ce que le principal du rayonnement d'Mbappé, à savoir se replacer, c'est ce qu'on va lui demander. Mais si le Real est plus costaud qu'il ne l'était l'année dernière, il se replacera aussi mal qu'il ne le faisait l'année dernière, mais ça se verra pas.
Sarah.
Oui, donc en fait, Pascal, tu es en train de nous dire qu'effectivement, comme l'équipe autour de Mbappé va se renforcer, on va donc attendre plus de choses du Real. Donc forcément, c'est une année charnière. L'année dernière, il est arrivé, il y avait une prise de température. Et d'ailleurs, de ce que je lisais, Carlo Ancelotti.
Ah, on a châtié.
Appelle le char.
Appelons le char. Faire comme moi, Sarah.
Mais non,
appelle Lucien.
C'est mon idole. Son objectif, Ancelotti, sa mission, c'était d'installer Mbappé dans le vestiaire, ce qui n'était pas garanti au début. On est bien d'accord.
Oui.
Là, Alonso, ce qu'on lui demande, c'est de faire progresser Mbappé. Donc forcément,
et toute l'équipe.
Donc, de fait, ça devient une année charnière où on attend des résultats probants de l'équipe Real Madrid.
On parle beaucoup du Real, mais on parle pas de l'équipe de France là.
Depuis qu'il a
le brassard de capitaine, il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi depuis qu'il a le brassard? Là maintenant, il a besoin de montrer des choses parce que
le rôle de capitaine qu'on attendait.
Et exactement. Déjà, il doit montrer des choses. Et je suis désolé, maintenant il y a Dembélé aussi qui pousse un petit peu. Donc s'il veut continuer à être le numéro 1, s'il veut continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire du Mbappé, mais il a besoin de performer aussi avec l'équipe de France.
Et puis c'est il a 27 ans, on l'a dit. Il y a une génération qui pousse derrière. Dans le monde du foot, là il est face à un Lamine Yamal qui est une des stars. Edgar le sait.
Il y a quand même un défi qui est mis en avant, Yamal et Mbappé par les médias espagnols. Voilà.
Il y a quand même une différence d'âge, et à un moment donné il ne faut pas qu'il perde trop de temps, puisqu'on le sait, Mbappé, son objectif, c'est de gagner des titres aussi individuels, comme le Ballon d'Or. Pascal.
Ouais, c'est très vrai ce que tu dis, mais il y a quand même moi je regarde ça vu de France. Il y a quand même un déficit d'image concernant Mbappé, une cote de désamour concernant Mbappé.
En France, oui.
Il en est responsable. Je ne sais pas ce qu'il en est en Espagne. Il en est responsable, mais je trouve quand même que c'est exagéré. C'est le sort qu'on réserve souvent à nos champions. Dès qu'ils font un pas de travers, on leur tombe dessus, on les allume. Moi, je dis que Mbappé, du même niveau qu'Mbappé la saison dernière, dans un Real meilleur qui recommence à gagner, Mbappé sera adulé en Espagne. Tout simplement. Et il le sera encore moins en France. Ouais. Parce qu'en France, on attend qu'il se casse la gueule.
Non.
Mais c'est bien.
Non.
Je sais pas. Ouais, vous êtes souvent dans la rue, tous autant que vous êtes. Vous vivez dans des grandes villes, tous. Le débat, souvent nourri concernant Mbappé, il insupporte beaucoup de personnes, et il y en a peu qui veulent le voir réussir.
Je suis désolé. On peut nos idoles quand même. Ça c'est vrai quand même. Je tiens à donner un point.
Comment il est vu,
son premier point et sa première bonne punchline.
On a passé deux jours ensemble. Ça fait deux jours qu'on est ensemble. Et c'est la première fois que tu dis quelque chose de bien sûr.
Dimanche, magnifique. On arrive à vous mettre d'accord.
Je suis presque en vacances. C'est pour ça.
Plusieurs semaines de grande gueule du sport. Edgar, juste comment il est perçu en Espagne, parce que tu l'as dit un petit peu, mais sur voilà, il est apprécié là-bas.
Oui, il est apprécié. C'est sûr que sa première saison ici est quand même vue comme un succès. Pour vous donner un exemple bête, mais par exemple, vous baladez autour du Bernabéu, il y a toutes les boutiques officieuses qui vendent des écharpes avec les visages des joueurs. Et ben, ce sont les écharpes de Kylian Mbappé qui sont mises en avant. Hein. C'est pas celle de Vinicius, pas celle de Bellingham. C'est lui, la star du Real Madrid. Ouais. Marca a sorti son guide de la saison cette semaine. En une, c'est Kylian Mbappé. C'est pas Vinicius, c'est pas Bellingham, c'est pas qui vous voulez. C'est vraiment devenu une immense star ici. Et c'est vrai que c'est différent que l'ambiance en France, où c'est vrai qu'il y a un désamour discours autour de Kylian Mbappé qui est assez présent quand on discute avec avec des fans, notamment parce que surtout si vous habitez à Paris, il y a beaucoup de fans du Paris Saint-Germain qui ont maintenant une mauvaise image de Kylian Mbappé.
Ouais. Mais ça, c'est s'il performe avec l'équipe de France, je pense pas que ça peut revenir un petit peu pour lui.
Bah, c'est pour ça.
Et ne restons pas aussi. Je pense que parfois on est un petit peu centré aussi sur Paris et on entend toute cette négativité qui sort de Paris. Je pense que le fan de l'équipe de France qui habite autre part en France et qui s'en fiche un petit peu du Paris Saint-Germain, il aime bien toujours Kylian Mbappé. Le petit 10 ans, il a envie d'acheter un maillot de l'équipe de France, il achète toujours potentiellement un maillot de Kylian Mbappé. Donc faut pas exagérer non plus, même si évidemment sa cote de popularité n'est
ça
plus du tout celle qu'elle était en 2018
si jamais
par exemple.
Dembélé a le Ballon d'Or, les statues en équipe de France, ça sera un autre débat je pense dans les GG. Théo est avec nous dans les grandes gueules du sport ce matin. Bonjour Théo.
Ouais, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Merci
Théo.
De nous rejoindre au 32-16. Sur le débat Mbappé, alors comment tu te situes? Plutôt d'accord avec Pascal, c'est pas forcément un tournant cette saison ou...
Oui et non, parce que il est quand même, je crois, c'est 44 buts, c'est ça, en 58 matchs.
C'est ça.
Bon, on peut pas dire que ce soit une saison loupée. Mais
justement, la saison à venir, comment tu la vois?
Le problème, c'est qu'il doit continuer sur cette lancée au niveau des buts en championnat. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'il est venu jouer au Real Madrid. Et au Real Madrid, on l'a vu, moi, ça fait longtemps que je supporte le Real.
Faut gagner.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on n'a pas le choix, quoi. Faut gagner. Et bon, il est arrivé un peu imposé par Florentino Pérez qui a, j'ai l'impression, fait un caca nerveux pour avoir Mbappé. Bon, maintenant il est là, d'accord, c'est bien. Sauf que, en plus de ça, pour lui, il s'est passé le pire scénario possible, c'est-à-dire qu'il part du PSG, qu'il ne gagne pas, il arrive au Real, bam, le Real ne gagne plus rien et le PSG gagne avec des champions. Donc maintenant, mon grand, moi je respecte parce que je trouve qu'on l'allume facilement en France. J'entendais là, vous parliez de ça. Benzema, il a ramassé pendant des années en France et il est parti avec un ballon d'or et je sais plus combien des champions. Voilà, faut laisser lui le temps. Je trouve que pour une première saison, on est dur, même si pour le Real, c'est une saison complètement blanche et nulle. Hein. Faut pas se leurrer. Mais en attendant, moi, là où je peux lui en vouloir un peu, c'est que des fois, tu parles un peu trop, je trouve. C'est-à-dire que quand il avait gagné... le trophée, je sais plus le nom, à la cérémonie du Ballon d'Or, c'était le trophée Copa, non, pour le plus jeune joueur, le meilleur jeune joueur, meilleur espoir, je crois. Bon, il avait dit moi je veux tout gagner.
Ouais, ah oui, oui.
Mais maintenant il faut le prouver. C'est-à-dire que
c'est une période charnière pour lui.
Donc tu estimes que c'est une année importante, voire charnière pour lui cette année.
Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que lui, il a un peu aucun risque dans le sens où il est protégé par Pérez. J'ai l'impression que il est un peu dans le truc de Pérez, il est là doucement avec Kylian. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, il va remplacer Cristiano. Non, il remplace pas Cristiano parce que Cristiano, quand il parlait le lendemain, il mettait un triplé. Bon, c'est pas content, Cristiano.
Pour marquer autant de buts. Autant de buts qu'il a marqué, Kylian, il a fallu quand même qu'il enquille.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr.
Mais il n'a pas fait semblant.
Mais
quoi.
Ronaldo, il a combien de Ligue des Champions?
Et après, tu l'attends sur les matchs de Ligue des Champions, Mbappé. C'est aussi là-dessus que tu l'attends.
Hein. Ronaldo, il en prend deux contre Wolfsburg, il met un triplé une semaine après, et il qualifie son équipe. Il en prend trois ou deux face à l'Atlético, et il leur met un triplé avec la Juve.
Ouais.
Reste tranquille et sers-toi de cette concurrence que tu vas avoir, parce qu'on parle de Yamal, mais Rafinha, je trouve que quand même il y a quand même aussi Monsieur. Tu veux la nouvelle concurrence Ronaldo Messi avec Mbappé, Lamine Yamal. Mais il va falloir se mettre au niveau
donc
de la
c'est ton
Yamal.
Message. Reste tranquille. Voilà, s'il nous a écouté, Kylian Mbappé ce matin, reste tranquille. Message de Théo. Tu vois, t'as fait passer
non,
ton message.
Je me permets pas. Moi, j'ai joué en district toute ma vie. J'ai gagné.
Attends.
Jean Bergeon.
Tu peux te permettre tout ce que tu veux. T'es dans les grandes gueules du sport sur RMC. Merci beaucoup.
Pas de problème.
Merci d'être passé, Théo. Merci beaucoup. Et puis, je rappelle, Edgar, donc, le premier match, c'est mardi. Hein.
Oui, contre Osasuna, 21h, voilà. Et on parlait de, il parlait un petit peu de la gentillesse parfois qu'il y avait eu autour de Kylian Mbappé la première saison. C'est ça la différence, c'est que maintenant, s'il est vraiment mauvais cette saison, il va être sifflé. C'était pas du tout le cas la saison dernière. Il y a un petit peu plus de pression sur lui cette saison.
Bon, merci beaucoup Edgar. Tu reviens évidemment quand tu veux sur RMC. On te retrouvera pour suivre cette rencontre de Liga, la Liga qui a repris.
On a largement gagné avec Fred cette sur semaine. Ce débat.
Non mais il y a
on
pas
a
photo.
On a rallié tous les avis.
Non non, attends, Sarah, on va t'expliquer un truc. Pascal ne gagne jamais. Les débats.
Vous donc, savez, qu'est-ce que je voulais dire, vous avez des rétroviseurs, je vous vois pas. Vous vous regardez, hein, tous les deux. L'autosuffisance, ça va, ouais. Ouais. Allez, ça va les chevilles. Vous, les oh, Sarah, t'as
mais
changé.
Vrai que, c'est vrai qu'il nous voit pas parce qu'on est bien trop loin devant. Hein.
Ouais, non, mais Sarah, t'as changé, Sarah.
Oui, j'ai changé pendant les vacances, j'ai changé.
La nouvelle Sarah. Allez, dans un instant, vous restez avec nous. Invité exceptionnel, Boris Diaw, dans ce studio, manager des Bleus, légende du basket. On est à 10 jours du début de l'Euro et on a la liste des 12 joueurs qui vont participer à 7 euros. On en parle dans un instant avec vous au 32-16 aussi. On vous attend si vous voulez poser une question à Boris Diaw. On vous attend au 32-16 dans les GG. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport ce matin, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Fred Weiss, merci à tous de nous écouter. Bon courage si vous êtes sur la route, pourquoi pas des vacances. Bon courage si vous travaillez bien sûr, et pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, il y a le podcast qui est disponible sur l'appli RMC. C'est le moment d'ouvrir le dossier des GG. C'est parti.
Tout le monde a les bras levés, c'est magnifique. Flo Pietrus, il est, c'est magnifique parce qu'il y a un énorme respect. La salle est debout, il reste encore 8 secondes. On va l'attendre ce buzzer, on va l'attendre. Il se trépigne sur le banc de touche. Agença, j'ai la balle. Petro, ils ont les bras les uns sur les autres. Batoul, c'est fini. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. Jacques Monclar est aux anges. On est tous aux anges. Champion d'Europe de basket, messieurs, dames. C'est inique, c'est historique, c'est inimaginable. Qui avait pu parier sur cette équipe de France après le deuxième tour? On sort la Slovénie en quart de finale, l'Espagne en prolongation et la danse française sur le parquet en battant la Lituanie 80-66.
RMC, le dossier des GG.
Ah, vous vous en souvenez sans doute, les Bleus vainqueurs de l'Euro en 2013. La seule victoire française à l'Euro, et notre invité s'en souvient puisqu'il était ce jour-là sur les parquets. Boris Diaw est avec nous. Salut Boris.
Salut Boris. Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Vous faites moi les malins là, d'un seul coup. On parle un peu de basket. Boris, bonjour, merci Boris. Beaucoup.
Toi non plus, tu avec fais plaisir. Pas les malins.
Les malins. Je fais pas les malins.
Les malins devant Boris. Hein. Bah, vous avez joué ensemble. Écoute, ça te fait plaisir de retrouver Fred.
Ouais. Bien sûr.
Tu l'écoutes de temps en temps, tu le trouves bon là dans son rôle de consultant.
Oui, justement. Je trouve
meilleur que sur le parquet.
Non, il était très bon sur le mais il est très bien dans son rôle de consultant.
Merci Boris.
Et dans les débats.
Bon, en tout cas, Boris, merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, à 10 jours de l'Euro, on va parler bien sûr de cette équipe de France. On va revenir sur le match d'hier remporté par les Bleus. Ça a été quand même chaud face à l'Espagne à Bercy. Il y a eu aussi beaucoup de moments d'émotion. On les a suivis. Aujourd'hui, tu es manager général des Bleus, légende du basket, je le dis, pour les plus jeunes, mais quand même plus de 200 sélections. Et l'actu des Bleus, c'est la liste. C'est tombé il y a une heure seulement avec le choix de Frédéric Fautou, donc de partir donc avec 12 joueurs, on le savait, mais de ne pas prendre Nadir Hifi, qui ne participera pas à l'Euro. Voilà le choix important à retenir, sinon tous les autres sont là. On rappelle aussi le forfait de Vincent Poirier. Nadir Hifi ne sera pas là, c'est Sylvain Francisco qui a été préféré à Nadir Hifi. On a les explications de ce choix, pourquoi plutôt Francisco que Hifi?
Oui, je pense que le coach dans la conférence de presse a expliqué ses choix. Il y a des choix qui ont été très très compliqués et très difficiles de toute façon depuis le début de cette préparation. On est vraiment sur un groupe qui est très très homogène. De mémoire, le groupe le plus homogène que j'ai eu la chance de côtoyer sur ces 25 dernières années avec les équipes de France. Et donc du coup, ça a à chaque fois été un crève-cœur, ça a à chaque fois été très difficile, et les choix ont été faits vraiment par rapport à la construction d'une équipe. Donc c'est pas sur un manque de niveau, c'est pas sur un manque d'engagement de la part des joueurs. Tous les joueurs méritaient d'être dans cette équipe, tous les joueurs auraient pu apporter quelque chose à cette équipe, et c'est encore le cas sur ce choix-là. Nadir a été exemplaire depuis le début de la préparation. C'est quelqu'un, on sait ce qu'il peut apporter. Il peut apporter des choses à l'équipe. Mais dans la complémentarité, les choix ont été faits différemment.
Francisco, il a fait des bonnes performances.
Hein, il a fait des bonnes performances. Moi, je trouve que depuis son passage à Kaunas, il a vraiment progressé dans la gestion du jeu. Il amène le ballon où il faut à chaque fois. Mmh. Il est moins foufou qu'il l'était avant. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Mais je comprends qu'on puisse hésiter avec Ifi, qui lui aussi peut apporter des choses en sortie de banc, qui est un peu un pétard ambulant et donc qui peut mettre des shoots assez incroyables. Donc, je suis un peu déçu pour Nadir Ifi, évidemment. Mais je pense que c'est un bon choix, hein,
François. Voilà, les 12 bleus, je les rappelle. Isaiah Cordinier, Bilal Koulibaly, Sylvain Francisco, Jalen Hurd, Mam Djété, Timothy Luwawu Kabarro, TLC, Théo Malédon, Elio Kobo, Zachary Rizaché, Alexandre Sarr, Mathieu Strazel et Gershon Yabouzélé qui sera donc le capitaine de ce groupe France. Il y a un forfait, on va en parler parce que c'est important. On l'a appris hier, Vincent Poirier, gros coup dur pour les Bleus. Comment le remplacer? Ça, c'était la question. Et il n'y a pas eu donc d'appel à un nouveau pivot dans cette équipe.
Oui, c'est ça. Donc, on était 14 avant de faire la sélection aujourd'hui. Et donc, bah, un des 14 qui était Vincent Poirier qui était blessé du coup au genou.
Ouais, c'est un coup dur?
Oui, bien sûr, c'est un coup dur parce que c'est quelqu'un qui a apporté quelque chose de particulier dans un profil particulier par rapport à cette équipe. Il a apporté vraiment de la taille. Il a apporté aussi du physique, du poids dans cette raquette. Il a apporté aussi de l'expérience. Et donc, c'est toutes ces qualités-là qui étaient difficiles à remplacer de toute façon. Et le choix a été fait de le remplacer différemment, de le remplacer avec les joueurs qui faisaient déjà partie de cette équipe. Comme je vous l'ai dit, on était 14 et on peut suppléer ce que pouvait apporter Vincent d'une manière différente avec tous les joueurs qui doivent faire des efforts supplémentaires à leur poste aussi. Ouais.
Alors il y a un joueur qui a été contacté, c'est l'intérieur des Charlotte Hornets, Moussa Diabaté. On va écouter Fred Fautou, c'était il y a quelques instants lors de la conférence de presse, interrogé donc notamment par RMC Sport sur le choix de Moussa Diabaté finalement de ne pas venir en équipe de France. Écoutez Frédéric Fautou.
Sur le poste d'intérieur, on a la blessure de Vincent qui est un coup dur et qui nous posait problème. On a sollicité au moins un joueur qui avait fait la préparation avec nous, Moussa Diabaté, qui a refusé de revenir pour des choix personnels de carrière. J'aurais pas fait ce choix, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est le sien, il faut le respecter. Donc on a préféré privilégier les solutions en interne.
Voilà, Moussa Diabaté, donc, qui a choisi de ne pas participer à cette aventure-là. Il avait déjà refusé d'être partenaire d'entraînement avant les Jeux Olympiques. On a entendu la déception de Frédéric Fautou. Boris Diaw, on te connaît, un amoureux de l'équipe de France. T'as fait beaucoup de bien à cette équipe de France. Ce choix-là de Moussa Diabaté, j'imagine que tu as du mal à le comprendre.
Bah, de la même façon, alors pas à le comprendre, de la même façon, et comme a dit Fred, je sais que personnellement, j'aurais pas fait ce choix-là, mais c'est pas moi qui fais ce choix, et donc toutes les personnes sont différentes, toutes les personnes réfléchissent de manière différente, et il faut pouvoir simplement prendre acte.
Fred.
Alors je suis à peu près sur la même ligne que mes collègues. J'aurais pas fait ce choix-là, mais après il faut entendre aussi que des saisons NBA c'est compliqué, qu'il doit faire sa place là-bas, qu'il a peut-être un programme de préparation pour aborder la NBA parce que lui il pensait ne plus être sélectionné, donc je pense qu'il avait prévu autre chose. Une nouvelle fois, j'aurais pas fait ce choix-là, mais chacun fait les choix de carrière qu'il veut et si ça lui réussit et que dans 2-3 ans, grâce à ça, il a une meilleure carrière NBA et qu'on est content de le récupérer, tant mieux pour lui.
En tout cas, vous auriez pu quand même faire le choix de prendre Fred Weiss, quoi. Franchement, il est encore en forme.
Non, il a dit qu'il partait en vacances, là.
Ouais, mais
projet... Il avait besoin.
Il a dit qu'il n'aurait pas fait le choix, donc s'il avait été appelé, il serait venu. Hein.
Ah oui,
j'ai une question pour Boris.
Pascal.
Ouais, en fait, on depuis le début, vous posez des questions. C'est pas un reproche, hein, mais à Boris, alors qu'il est dirigeant, vous voulez poser des questions sur les choix du sélectionneur. Moi, simplement, en ta qualité de dirigeant du basket français, j'aimerais te poser la question. Pour toi, quel est le moins-disant des résultats que l'équipe de France doit obtenir au prochain championnat d'Europe qui démarre le 27 de ce mois. Donc dis-moi si le dernier carré, tu objectiveras que c'est le moins disant, ou tu veux que l'équipe de France, tu souhaites que l'équipe de France, tu penses que l'équipe de France doit l'emporter.
Bien sûr, on voit, c'est de toute façon les choses ont pu évoluer. C'est ce qu'on voit aussi un petit peu par rapport à ce début de préparation. On était sans savoir exactement quel allait être notre niveau en commençant cette préparation, parce que beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, nouveau staff également, et donc il fallait pouvoir prendre aussi la mesure pour savoir où on veut aller. Alors bien entendu, les joueurs et nous aussi, on essaye d'aller le plus loin possible et le plus haut possible.
C'est une réponse de Normand, ça.
Bien sûr. Il faut jamais aussi oublier la compétition. On peut pas juste se concentrer sur nous. Il y a des équipes en face quand même, avec des joueurs. On parlait de Jokic tout à l'heure, parce que Fred Weiss a dit qu'il pouvait le battre un contre un. Enfin,
bon, voilà, de mettre dans sa poche, il a dit exactement.
J'ai dit facilement. Aux échecs,
mais voilà, savoir
qu'il y a la Serbie, voilà, l'Allemagne,
des très grosses équipes qui peuvent prétendre vraiment à gagner. Donc voilà, donc nous, ça dépendait aussi. On voit aussi que la préparation a continué, qu'on a eu aussi des blessures au fur et à mesure des
mais
joueurs
ces deux
qui ont,
victoires
qui ont pu ne pas être là.
Elles sont quand même constructives de quelque chose.
Bien sûr, elles sont constructives et on continue à construire et cette équipe continue à grandir et on a encore du chemin à faire. Alors ces matchs contre l'Espagne, c'est plus l'Espagne non plus de l'époque, même si ils sont jamais faciles.
Ouais, mais le caractère montré en deuxième mi-temps m'a semblé hyper intéressant. Alors je suis d'accord avec toi, franchement l'Espagne ça n'a plus rien à voir et on peut plus les considérer comme des prétendants au titre comme ils l'ont toujours été, même si à chaque fois ils nous créent des surprises. On se rappelle 2022 par exemple, mais réellement le caractère qu'a montré cette équipe, les leaders, moi je pense à Mathieu Srazel qui a été excellent sur le début du troisième carton pour aider justement cette équipe à revenir, ça donne quand même des signaux hyper positifs.
Oui, on a des signaux hyper positifs. Et donc, pour répondre vraiment concrètement aussi à cette question, de réponse de Normand, non, ce serait bien sûr très bien d'aller dans le dernier carré. Moi, j'ai vraiment tendance à dire qu'on essaie aussi d'inculquer cette culture de la gagne aux jeunes qui arrivent aussi. On a réussi à hisser l'équipe de France au plus haut niveau international et le but est d'y rester, quelle que soit l'équipe, quels que soient les joueurs qui soient là. Ben on a aussi cette responsabilité de continuer à avoir l'équipe le plus haut possible et donc essayer d'arriver dans le dernier carré serait déjà très bien compte tenu de la difficulté de ce championnat et des équipes qu'on va avoir à affronter. Oui.
Alors on va en parler dans un instant, hein. Gardez vos questions pour Boris Dio qui est avec nous en direct, 32-16 aussi d'ailleurs si vous voulez rejoindre RMC et les Grandes Gueules du Sport pour poser vos questions à Boris Dio, invité exceptionnel donc des Grandes Gueules du Sport. On vient dans une minute, on continue de parler des objectifs de cette équipe de France. J'aimerais qu'on parle aussi de ce qui s'est passé hier sur les parquets avec ce moment d'émotion pour Nicolas Batum, pour Nando De Colo. On en parle dans un instant sur RMC, restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Encore un quart d'heure à passer ensemble dans les Grandes Gueules du Sport. Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Fred Weiss et Boris Dio. Alors c'est pas encore une nouvelle Grande Gueule du Sport, on l'espère peut-être un jour. Il a d'autres choses à faire entre temps.
J'ai une petite gueule, moi je suis normand.
Salut, attention, hein, t'as vu,
tu vas te rentrer dedans, Sarah. Non mais c'est parce que t'es occupé aussi, je crois, voilà. Tour du monde, non?
Oui aussi.
Ouais, hein, il faut le finir.
Ouais.
Il faut le finir.
Ah oui. Non, mais tu viendras.
Il y a plusieurs billes, Boris.
Tu viendras faire les Grandes Gueules du Sport parce qu'on t'accueille avec grand plaisir.
Avant, tu veux jamais virer, c'est ça?
Non, pourquoi? Vous pouvez faire.
On aura
le 5 majeur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le 5 majeur, il est là. Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski.
On a deux meneurs. Hein.
Alors, trois même. Hein. On n'est pas très haut.
Oui,
alors
je sais pas qui est le plus mauvais des deux meneurs. Alors.
C'est ce qu'on disait, le small ball. Voilà, oui, c'est dans exactement. Les grandes gueules du sport. Je rappelle, donc, on est à 10 jours de l'Euro. Prochain match de prépa dimanche prochain à Athènes face à la Grèce pour l'équipe de France avant de lancer l'Euro face à la Belgique le 28 août. Puis viendront des rencontres face à la Slovénie, Israël, la Pologne, l'Islande. On va parler des objectifs. On en a un peu parlé pour l'équipe de France. Mais on va retrouver Mathéo Rollet, notre envoyé spécial RMC qui a suivi la conférence de presse de Frédéric Fotou. Il y a quelques instants. Bonjour Mathéo.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Dis-nous ce qu'il a dit là, c'était il y a quelques instants, notamment concernant les ambitions de cette équipe de France.
Oui, bah écoute, François, il est arrivé plutôt détendu, à vrai dire. Donc, j'imagine quand on est invaincu à la tête de l'équipe de France, ça aide. Mais il est confiant, il n'a pas peur de l'absence de Vincent Poirier, même s'il l'aurait bien emmené, vous l'imaginez bien. Et puis, ce choix de Moussa Diabaté de rester finalement aux États-Unis pour préparer sa saison, et il le comprend, même s'il ne l'aurait pas fait. Et il va du coup s'appuyer sur les joueurs qui sont présents, et il voulait insister là-dessus, puisque selon lui, la préparation est excellente, le groupe vit très bien. Alors il va falloir s'adapter à cette absence de Vincent Poirier, jouer petit, même s'il compte aussi beaucoup sur Alexandre Sarr pour récupérer les ballons hauts. Et puis ensuite, on a pu interviewer Bilal Koulibaly, qui lui apparaît comme l'un des cadres de cette équipe de France jeune, très jeune. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France aussi jeune. Et il nous a dit qu'il était vraiment motivé pour finalement amener l'équipe de France au plus haut de cet Euro et montrer que la passation de pouvoir entre les moins jeunes et la génération dorée qu'on a connue et cette génération-là se fait finalement plutôt facilement. Alors voilà, des stratégies différentes, des joueurs plutôt différents, mais le groupe vit bien, le groupe veut aller au bout, et ça, c'est surtout le principal, c'est surtout ce qu'a voulu dire et voulu insister Frédéric Fautou.
Parfait, merci beaucoup Mathéo. Évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette conférence de presse sur rmcsport.fr. On est avec Boris Diot, donc en direct, manager général de cette équipe de France. Quand Mathéo nous disait, voilà, et Frédéric Fautou dit que le groupe vit bien, c'est une... Alors souvent on dit, ah bah ça c'est un poncif de journaliste, ça on nous dit ça, on nous rabâche ça. Bon, tu les connais par cœur, Boris, tu les vois évoluer, c'est la réalité, il se passe un truc dans ce groupe.
Oui, vraiment. Alors après, c'est sûr, souvent quand on rajeunit et qu'on a les mêmes générations qui sont ensemble, c'est aussi plus facile parce que on parle le même langage. Donc clairement ce groupe vit particulièrement bien. Ils sont vraiment tous sur la même longueur d'onde. Ils se serrent les coudes. Après c'est dans les moments difficiles qu'on voit justement si ça fonctionne bien. Pour l'instant, on a eu 3 victoires, mais on a eu une première mi-temps difficile et comme disait Fred tout à l'heure, il y a eu une vraie réaction au niveau des joueurs.
Il y a du caractère.
Il y a du caractère et il y a du caractère qui a été mis ensemble plutôt que de se tirer dans les pattes quand on fait une mauvaise première mi-temps. Ils se sont serrés les coudes et ça, c'est le plus important.
Avec Yabouzélé, capitaine aussi. Ça, c'est un choix important aussi. Alors, même si c'est un des plus expérimentés, c'est quel capitaine? C'est quel type de capitaine?
Oui, bien sûr. C'est un nouveau rôle pour lui. Donc, c'est pareil. C'est quelque chose qui l'endosse et qui est une nouvelle expérience pour lui parmi cette équipe. Mais oui, il le prend très, très sérieusement et c'est souvent quelque chose qui est difficile parce qu'il faut se concentrer sur son jeu, se concentrer sur l'équipe en même temps. Mais effectivement, c'est le joueur qui a le plus d'expérience dans cette équipe et puis maintenant un des plus âgés puisque c'était Vincent qui était il y a Mam Jaïté qui est peut-être plus âgé. Mais ça doit être le deuxième plus âgé de ce groupe, je pense.
Ouais, donc de l'expérience. Sarah.
Moi, j'ai une question alors de néophyte, mais peut-être que le public français se pose. Est-ce qu'il faut tirer un trait en dehors des Jeux Olympiques sur la présence d'un Wendy au sein de cette équipe de France?
Non, pas du tout.
Parce que quand il est parti aux États-Unis, il déclarait que l'équipe de France avait de l'importance
bien
et qu'il ferait tout pour jouer. Mais...
Bien sûr.
Mais voilà.
Mais c'est le contexte, ça. Je pense que c'est bon, ça. C'est le contexte qui a fait qu'il n'a pas pu être présent.
Il y aura toujours le contexte de la NBA.
La première Coupe du Monde, il commence sa carrière NBA. Donc, c'est assez logique que finalement, il privilégie la carrière NBA. Et là, il sort d'un problème physique très, très important. Donc, c'est le contexte.
Mais c'est vraiment ça. Non, moi, je suis.
Parce qu'on a déjà eu par le passé le débat autour de Joachim Noah. Peut-être pas la culture française comme Wendy qui a grandi en France et qui a évolué en France, mais ce débat a été quand même assez récurrent pour l'équipe de France.
Alors, c'est pas du tout le même cas. Ouais. C'est vraiment deux situations qui sont très différentes. Wendy, bien entendu, a exprimé le fait de vouloir jouer avec l'équipe de France, que c'était important, qu'il avait envie de jouer tous les étés avec l'équipe de France tant que sa santé le permettait. Donc c'est là et cette dernière phrase qui est importante, si sa santé le permet. Donc il a eu bien sûr une blessure très lourde cette saison avec une thrombose, un caillot sanguin, avec une opération. Et donc le fait de ne pas pouvoir revenir était le fait de pouvoir revenir physiquement à 100% avant de pouvoir être avec l'équipe. Donc moi je suis persuadé qu'il sera avec l'équipe de France tous les étés.
Prochaine saison.
Tant qu'il sera.
C'est plus un Boris Diot et un Tony Parker qu'un Noah dans cette attitude. Oui. Lui, ils ont plus la culture du basket, d'avoir envie de jouer avec l'équipe de France, reprendre
le pays. Ça reste des sacrifices d'ailleurs.
Oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je parle de culture, parce que effectivement, faire autant de matchs NBA et enchaîner sur l'équipe de France, c'est jamais facile. Donc faut quand même leur tirer un coup de chapeau, même si j'aime pas tirer des coups de chapeau.
Alors il n'y aura pas Wembanyama, mais les amis, là, faut vous mouiller quand même. Est-ce qu'on peut croire à une victoire française? Alors Boris Diot, qui est avec nous dans ce studio, nous dit que déjà dernier carré, ça serait très bien pour cette équipe de France, c'est l'objectif. Sarah, toi, tu penses quoi?
Mais qu'est-ce que tu veux que j'en pense?
Elle pense comme Boris.
Je pense que le dernier carré est minimum. Quand on est médaille d'argent aux Jeux Olympiques, on peut légitimement penser qu'on peut ramener une médaille. Mais ça, c'est du pragmatisme de
Pascal. Non, parce que Pascal, je crois qu'il pense vraiment à la victoire finale, hein, Pascal.
Ouais,
c'est toujours un tour rêveur, Pascal.
Ah, voyez, je suis pas là, hein, donc voilà, je crains rien. Boris va pas me tirer les oreilles. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que les réponses de Boris, elles suffisent à me convaincre que j'ai l'impression qu'ils sont tapis dans l'ombre et qu'on va avoir une bonne surprise. Parce qu'il incarne la force tranquille au travers de ses réponses. Et en plus, la franchise, je te remercie.
Par contre.
Non, mais je te remercie de. Mais quand même, quand t'as, comment dire, le manager de l'équipe de France qui te dit qu'on, l'objectif, tranquillement, il te le dit, c'est d'être dans le dernier carré parce que la France a l'habitude de gagner et sa génération et les générations précédentes ont hissé le basket français à un tel niveau. Ben, moi, j'ai envie d'y croire. Donc, j'y crois. Merci, Boris. Merci.
tu à la victoire, pas du tout.
Non,
j'y crois pas du tout. Mais moi, je pense que j'ai envie de.
T'as un disproie, toi.
Non, j'ai envie de voir cette équipe progresser, c'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui a un nouveau coach. Pour moi, c'est une année de transition. Est-ce qu'on va faire des coups? C'est tout à fait possible, parce qu'encore une fois, cette équipe de jeunes a montré du caractère, notamment contre l'Espagne. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont pu proposer, parce que quand tu joues aussi mal en première mi-temps, que tu réussisses à t'imposer contre une équipe, même si c'est plus l'Espagne d'avant, aussi sérieuse que l'Espagne, je trouve ça très très bien. Donc, faire un coup sans doute, mais pour moi il y a des équipes qui sont mieux armées, notamment la Serbie qui me paraît, même si Jokic, je pense que j'aurais pu l'arrêter aux échecs, objectivement c'est des équipes qui sont mieux construites et qui en tous les cas plus de vécu collectif.
Tu penses quoi de ce que vient de dire Fred Boris?
Oui, ben exactement, je vais vous dire tout simplement qu'il faut avoir l'humilité, mais ça n'empêche pas l'ambition. Et donc nos joueurs sont ambitieux, ils ont l'ambition d'aller le plus loin possible. Pour atteindre la lune, il faut parfois viser les étoiles. Et donc
t'entends ça, Fred?
Essayer d'aller le.
Oui, il dit la même chose que moi. J'entends très bien.
Non, il y a match. Il y a match.
Idiot quand même.
Voilà. Donc.
Alors moi, je voulais quand même parler de cet hommage hier rendu à Nando De Colo et Nicolas Batum, de légende du basket français. Tu étais aussi sur le parquet d'ailleurs aux côtés de Nando De Colo. Bon. Évidemment, ce sont des légendes du basket et ça ne doit pas être si simple de passer derrière vous, derrière toi, derrière Batum, derrière Nando De Colo, quand on est cette équipe de France. Ça leur met quand même une petite pression supplémentaire ou au contraire, ça doit les porter?
Ça doit les porter et puis tous les anciens joueurs ont toujours de très bons mots pour eux. On a fait remettre les maillots par les joueurs qui avaient plus de 200 sélections.
Ouais.
Du coup, en équipe de France.
Il n'y avait pas Fred Weiss d'ailleurs.
J'ai pris ma retraite.
Ils ont toujours été bienveillants et donc ça doit les porter parce que on met vraiment l'accent sur ça, sur l'histoire et sur les joueurs qui étaient là avant. Et du coup, c'est pas pour mettre une pression du coup supplémentaire.
Non, mais ça leur met.
C'est inspirant. Au contraire, c'est un exemple que ça doit donner. Oui, mais c'est magnifique. En fait, c'est des précurseurs, c'est des pionniers. Et je trouve qu'au contraire, c'est magnifique de les mettre en avant parce que tu dis voilà vers où on doit tendre. Et franchement, quand on a des joueurs de ce calibre-là qui te montrent la voie,
ils sont réceptifs à ce que vous dites.
Oui, bien sûr, ils sont très réceptifs et comme j'ai dit, de toute façon, ils sont top dans l'engagement depuis le début. Et donc, d'avoir ces modèles et il y en a aussi une grosse partie qui a joué avec Nando et avec Nico et donc ils ont ces souvenirs là aussi.
Cette différence de culture parce qu'on sait que et on le voit dans les autres collectifs entre cette ancienne génération, mais cette jeune génération qui est connectée à tout le temps. Est-ce que vous partagiez les mêmes, ils partagent les mêmes passions, le même style de musique, où il y a ce fossé qui se creuse entre les anciens et cette génération qui a évolué et qui a grandi avec vraiment beaucoup plus d'outils que nous on avait quand on commençait le sport?
Alors bien sûr, il y a de grosses différences, on les voit toujours, mais on les voit même à l'intérieur d'un collectif. Et c'est marrant là de voir nous les jeunes qui on se disait ça y est, on comprend plus leurs blagues. On était en fin de carrière et il y avait des jeunes et ces jeunes aujourd'hui, je parle un gars comme Mam Jaïté par exemple qui lui du coup un des anciens et qui dit ça y est, je comprends plus les blagues des jeunes. Donc ça arrive à tout le monde et c'est normal. Mais ça n'empêche pas d'avoir le respect, ça n'empêche pas justement qu'il y ait une alchimie et toutes les équipes qui ont réussi, c'est toujours quand l'alchimie marche entre la fougue, la jeunesse, l'insouciance et les anciens qui apportent
une forme de tradition.
Il faut que les deux marchent. Ça marche jamais s'il y a que des jeunes, ça marche jamais s'il y a que des vieux. Et c'est toujours l'alchimie qui fait qu'une équipe.
Tu comprenais quand même les blagues de Fred Weiss quand tu jouais avec lui.
Que nous on les comprend pas.
Bon, Boris, merci mille fois d'être venu dans le studio RMC. Et tu reviens quand tu veux, bien sûr. On va suivre le destin de cette équipe de France. Donc on l'a dit, contre la Grèce dimanche prochain, ça sera en Grèce.
Il a dit qu'ils allaient gagner.
Quoi, le titre?
Le titre européen.
Ah oui, d'accord.
Oui, Boris, c'est ça.
On n'a pas eu la non, même
non.
lecture.
On va réécouter tout ça. Merci Boris, merci mille fois d'être passé Boris. Et à très bientôt. Merci beaucoup Fred. Merci. Et bravo hein, pour cet été. Tu reviendras quand même dans les Grandes Gueules du Sport, bien sûr. Sarah, à très bientôt dans les Grandes Gueules du Sport la semaine prochaine, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et Pascal.
Il y a du rugby féminin la semaine prochaine.
On va en parler. On parle de tout dans les Grandes Gueules du Sport. Merci Pascal.
Merci mille fois. Merci à tous.
Ciao, ciao.
Et les Grandes Gueules du Sport reviennent la semaine prochaine avec une petite surprise aux commandes. Je vous en dis pas plus. Soyez connectés samedi 9h pour les Grandes Gueules du Sport. Nouvelle version, nouvelle génération. Restez avec nous sur RMC dans un instant. Les Paris RMC avec la Ligue 1 au programme. À tout de suite.